Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Chers auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien. Comment faire de l'université officielle de Mbujimayi une véritable université? On en parle dans les minutes qui suivent avec Monsieur l'abbé Apollinaire Tshibaka Tshikongo, recteur de l'université officielle de Mbujimayi. Monsieur l'abbé recteur, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour chers auditeurs.
Bienvenue dans cette émission. Le sujet vous intéresse, eh bien le standard est déjà ouvert. Composez le 081 323 48 83, 081 323 48 83. Merci à toute l'équipe de production, Sylvain Baoué à la mise en onde, Nancy Antambo assure la coordination et la réalisation de cette émission, Esther Mamboté gère les plateformes digitales de Radio Okapi avec Moussangou au micro, Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous. Bien, c'est depuis le 6 octobre 2025 que l'université officielle de Mbujimayi a été a reçu des nouveaux bâtiments modernes. Une première dans l'espace Kasaï, voilà, d'avoir bénéficié d'un tel édifice qui suscite fierté et espoir dans la région. Ces campus s'imposent désormais comme l'un des plus grands pôles académiques modernes du centre du pays, ouvrant une nouvelle ère pour la formation de l'élite congolaise. Cependant, l'efficacité de ces infrastructures dépend de la qualité de leurs usagers. Le changement des mentalités dans les chefs des enseignants, étudiants et employés s'impose pour hisser cette université au rang des grandes institutions. Fort de son expérience des gestionnaires de l'université officielle de Mbujimayi pendant 5 ans, le recteur de cet établissement propose 12 réformes majeures pour un changement profond d'hommes et des mentalités dans un ouvrage intitulé « Du vin nouveau dans des outres neuves ». Alors, quelles sont ces 12 propositions ou 12 réformes? Peuvent-elles s'appliquer aussi dans les autres établissements d'enseignement supérieur et universitaire à travers le pays? On va le savoir tout à l'heure avec notre invité. Il s'agit bel et bien de Monsieur l'abbé recteur Apollinaire Tshibaka Tshikongo, recteur de l'université officielle de Mbujimayi. Monsieur le recteur, ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. 12 propositions ou 12 éléments pour réformer l'université, faire de l'UOM une véritable université. Alors, quelles sont ces propositions?
Bon, je peux les énumérer rapidement.
Oui.
La première proposition, c'est assumer l'essence européenne de l'université. L'université est une institution d'origine européenne, l'université telle que nous l'avons aujourd'hui. Mm-hmm. Et nous devons toujours nous interroger si, telle que nous la faisons fonctionner, telle qu'elle est chez nous, est-ce qu'elle continue à être fidèle, oui ou non, à cette essence-là? Donc, pour moi, c'est capital. Mmh. Alors, la deuxième proposition, c'est qu'une université est toujours une université située dans une société concrète. Et donc, elle doit être une université au cœur de la société. Parce qu'elle est là comme un instrument au service de la communauté. Mmh. Alors la troisième proposition pour moi, elle est la conséquence de la deuxième, c'est que si l'université est au service de la société, de la communauté, elle doit être à même d'aborder tous les problèmes de société, et cela doit se refléter sur les différentes filières de formation, et donc doit être une université, si je peux dire, scientifiquement complète, donc qui aborde toutes les dimensions.
Oui.
Alors, une telle université, quatrième proposition, doit évoluer dans un milieu assaini, en fait, pour qu'elle soit vraie. Parce que on évolue souvent dans un milieu où il y a plusieurs, disons, l'offre en matière d'université, en matière d'enseignement supérieur universitaire est vraiment pléthorique chez nous, et vous avez beaucoup d'institutions anarchiques, et vous avez aussi des institutions
non viables
et donc qui contaminent tout cela, de sorte que quand une université est là, par exemple la nôtre qui est là, qui est une université qui monte, lorsque face aux exigences, par exemple académiques, il y a d'autres offres qui fonctionnent au rabais, et donc on détruit le travail qui s'est fait dans des universités sérieuses. Alors la cinquième proposition pour moi, c'est la professionnalisation et le contrôle de la gestion. Donc une université est une administration, c'est une machine qu'il faut bien gérer, et la gestion ne doit pas se faire de manière artisanale, doit être très professionnel. Alors la sixième proposition, c'est entretenir et protéger les acquis. Là, vous voyez, notre université, c'est quand même aujourd'hui l'un des beaux visages de l'université congolaise. Ce qui a été inauguré le 6 octobre 2025 ne représente que 35% de nos besoins. Et là, on a commencé la deuxième phase d'ampliation de cette université.
Okay.
Qui va être donc dotée de nouveaux auditoires, des bureaux, des centres de recherche, des cliniques universitaires, des résidences pour professeurs visiteurs, mais aussi des sources d'énergie photovoltaïque. Donc, et puis un complexe omnisport.
Est-ce que vous avez déjà de l'espace pour
oui,
tout ça?
Oui. L'espace est là, donc ça va être fait au niveau de nos cliniques universitaires, donc à Dupumba, c'est là que cette deuxième phase est déjà en marche. Alors la septième proposition,
oui.
c'est poursuivre et étendre la modernisation. Justement, je viens de l'anticiper plus ou moins,
oui.
En disant bon, il faut qu'on entretienne, qu'on protège ce qu'on a eu, et puis deux, il faut poursuivre la modernisation, il ne faut pas l'arrêter. Heureusement que cela a été assumé par le chef de l'État, et le jour même de l'inauguration, il nous avait annoncé cela, et qui est en train de se réaliser. Alors la huitième proposition, c'est le corps académique. Une université, c'est d'abord ses professeurs. Qui sont les chercheurs qui sont là, qui y travaillent? Qui sont les professeurs qui forment? Et
aujourd'hui, vous avez combien de professeurs propres à votre université?
58 et importés 240.
Donc, c'est beaucoup. Hein?
C'est beaucoup. Donc, nous importons 240 professeurs d'université chaque année. Et là, nous n'avons que 58. Mais 58, il faut voir le cheminement qui est fait. Donc, pendant les cinq dernières années, on a pratiquement eu 30 nouveaux professeurs. Mais avec le nombre de scientifiques que nous avons, qui sont sur leur DIA, sur leur thèse, s'ils ont un appui financier conséquent, d'ici 5 ans, notre université peut passer de 58 professeurs actuels à environ 300 professeurs propres. Donc, c'est possible.
D'ici 5 ans,
si, parce que le talent, on en a. Les ressources, ils sont là. Mais souvent, il leur manque un peu d'argent pour pouvoir avancer rapidement dans leurs études. Donc là, il faut veiller à ça avec une bonne politique. Alors, la neuvième proposition pour moi, c'est la démassification et l'élitisation de l'université. En fait, l'université congolaise est une université de masse. Je pense que on devait plutôt, beaucoup de gens sont à l'université parce que ils n'ont pas d'autres voies de formation, d'autres opportunités de formation. Il va donc falloir diversifier la formation. Quelles sont les filières de formation
professionnelle,
de formation professionnelle,
oui.
Qui peut, alors au lieu qu'on soit, par exemple, vous êtes là-bas à la faculté de droit, vous avez 1200 étudiants. C'est pour répondre à quel besoin d'ici 10 ans.
C'est ça.
Donc chaque année, si vous avez 1200 étudiants, la faculté, je ne sais pas moi, de sciences économiques, vous avez 1000 étudiants.
C'est pour quel besoin?
C'est pour répondre à quel besoin.
Oui.
Mais écoutez, ces gens-là, si peut-être on leur offrait d'autres formes de formation, ils iraient. Donc il faut vraiment démassifier et élitiser, et que l'université ait des objectifs précis en termes de formation, de ceci ou de cela. Mmh. Alors la dixième proposition, elle est plutôt liée. D'ailleurs, c'était déjà avancé par le ministre Mouyindo quand il était à l'ESU.
Oui. Militariser la résidence étudiantine.
Oui, 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 oui. Comme nous avons une résidence étudiantine,
oui.
il fallait faire ça. Mais disons, ça peut être devenir comme un foyer de patriotisme, en fait, où on peut former les gens de la discipline. Patriotisme, discipline. Parce que beaucoup de gens, nous grandissons à la maison, c'est très bien, avec une bonne éducation, tout ça. Mais grandir aussi l'internat, c'est important. Et à l'internat, on apprend aussi à vivre en société, on apprend les bonnes manières en société. Mmh. Et une certaine militarisation, je pense qu'on en a besoin chez nous ici pour mettre les gens à l'ordre, au pas. Et qu'ils
d'ailleurs, dans d'autres pays, après le bac, les élèves vont d'abord faire le service militaire pendant deux ans.
Disons, malheureusement, l'Occident, vers la fin des années, la décennie de 90 et tout ça, début l'année 2000, ils ont supprimé le service militaire un peu partout. Je pense qu'ils le regrettent du point de vue de la discipline sociale. Et puis, ma onzième proposition, c'est repenser les aumôneries confessionnelles. Comme vous le savez, le Congo est un pays des gens qui croient beaucoup, où il y a plus d'églises que
des églises entreprises, un peu partout, oui.
Tout ça. Alors, oui. L'université, c'est aussi un lieu envahi par les églises. Mmh. Donc, il faut essayer d'organiser, parce que leur action fait partie de la formation que nous ne nous dispensons pas, mais on leur offre un cadre. Donc, si vous avez une université de 10 000 étudiants, c'est plus ou moins 10 000 croyants, et il va falloir y penser quel type d'aumônerie doit opérer sur l'université. Mmh. Et enfin, bon, c'est tout à fait un peu accessoire, la 12e proposition, elle est vraiment locale, c'était est-ce qu'on pouvait revisiter notre blason et notre hymne. Voilà donc un peu les 12 propositions que...
Voilà. Est-ce que ça peut s'appliquer aux autres établissements à travers le pays ou c'est spécifique
Non. Là, moi je suis pas ici un penseur national. Moi, je suis gestionnaire d'une petite, d'une jeune université.
Oui.
Mais comme gestionnaire, à l'occasion, on a donc une nouvelle université qu'on nous donne. Alors, c'est le moment où on doit penser pour dire, écoutez, ici, on a des bâtiments qui ont beaucoup coûté. On va en avoir encore, ça va. Donc nous devons réaliser un véritable déménagement, pas seulement un déménagement physique, mais un déménagement mental qui amène aussi de nouvelles manières d'habiter ces bâtiments-là. Mmh. Et j'ai pensé, ce sont des propositions, ce ne sont pas des décisions, ce sont des propositions. Hein, c'est-à-dire, si on veut bien habiter ces nouvelles infrastructures et que notre université soit à la hauteur de la confiance qu'elle reçoit de l'État, il faut donc faire ces déménagements à travers ces 12 portes ou ces 12 propositions.
Oui. On va accueillir les auditeurs. Nous parlons des 12 propositions pour faire de l'université officielle de Mbujimayi une université véritable. Berry Bingi, vous êtes à Bunia. Gentil Basokwamba, vous êtes à Kananga. Blaise Saidi nous appelle de Kisangani. Berry Bingi, bonjour.
Bonjour, M. Jody.
On vous écoute.
Oui, je salue l'invité, l'abbé recteur de l'université officielle de Mbujimayi.
Bonjour, merci.
Ouais, en tout cas, je salue la quatrième proposition du recteur sur la viabilité de certaines universités. En tout cas, pour assainir vraiment les milieux universitaires, l'État doit vraiment prendre cette disposition-là de fermer toutes les universités non viables. Parce que on doit promouvoir l'excellence dans nos universités actuellement, parce que beaucoup d'étudiants qui sont dans des universités qui sont un peu sérieuses, dès qu'il y a une université qui apparaît dans un milieu quelconque, en tout cas, ils sont obligés de recourir à ces universités non viables. En tout cas, l'État doit vraiment enseigner les milieux universitaires pour qu'on puisse promouvoir l'excellence dans nos milieux. C'est un peu ça l'interrogation que je voulais donner. Merci beaucoup.
Merci Berry Bingui. Gentil Basso Kwamba, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, merci à Daniel Kachama. Bonjour aussi à nos invités du jour. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Okapi qui me suivent à ce moment. C'est gentil parce qu'on va chulumo pour les mamans à Kazumba, secteur de Mbulongo. J'aimerais seulement vous poser quelques questions à nos invités, poser des questions à nos invités surtout. J'ai proposé presque 5 questions, s'il vous plaît, puisque c'est un sujet très pertinent.
Monsieur Gentil, les autres attendent, ne soyez pas égoïste. 5, c'est beaucoup. 2 questions, allez-y.
S'il vous plaît, ok. Je dois vous poser même 4 questions seulement. Première question, quelles nouvelles filières ou facultés seront créées pour répondre aux besoins du développement du Grand Kasaï? Quel mécanisme de suivi et d'évaluation seront mis en place afin de garantir que cette transformation devienne une réalité et ne reste pas une simple promesse? Quelles sont les principales mesures prévues pour transformer l'université de Mbujimayi en une véritable université de référence? Quel est le calendrier de mise en œuvre de cette proposition? Quelles ressources financières seront mobilisées pour concrétiser ces projets?
Merci
beaucoup. Le gouvernement central
vous déjà avez déjà engagé officiellement
à tenir cette transformation.
Vous avez dépassé les 5 questions, monsieur Gentil Basso Kwamba. Ne soyez pas égoïste. Merci beaucoup. Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani, bonjour. Blaise, merci d'ouvrir votre micro, bonjour. Allô? Blaise Saïdi? Bien. Bon, on va accueillir Jeannot Louemboué depuis le Lualaba. Bonjour Jeannot.
Bonjour monsieur Zodi, vous m'entendez?
Oui, on vous écoute.
Oui, je salue les invités, je suis venu il n'y a pas longtemps, je suis 50 ans. Et je salue merci de vous faire le ministère, mais merci de la parole dans ce temps. Je me réussis.
Monsieur Louemboué, on ne vous entend pas très bien, je ne sais pas si vous avez activé la main libre, sinon. Merci de parler un peu plus fort.
Là, ça va, vous m'entendez?
Oui, c'est bon. Ça s'est quand même amélioré.
C'est bon. Ouais, ça va. Je saluais l'invité au bain,
Non, là c'est compliqué, hein. Là on vous capte pas très bien. Je sais pas.
Là, ça va, vous m'entendez maintenant?
Oui, allez-y.
Bon, je suis obligé de continuer. Je disais, je suis au point 9 de massifier et
élitiser.
Pardon.
Voilà.
Élitiser l'université. Merci.
Oui.
Je pense que l'invité est en train de promouvoir la qualité au détriment de la quantité, voilà. Si ma compréhension est bonne. Mmh. Alors, partant de ce principe, comment est-ce que l'invité,
Oui,
papa. S'il arrivait qu'il y a un surnombre d'adhésions, des gens qui viennent venir étudier à cette université, et que le nombre plafond.
Désolé, là, on vous capte plus bien. Vous dites s'il y a un surnombre, sûrement, comment est-ce qu'il, monsieur le recteur va gérer cette situation-là. Merci, monsieur Jeannot. Blaise? Oui. Allô?
Je sais pas si vous m'entendez.
Oui, mais difficilement. Allez-y quand même.
Oui, bon, on va faire avec. Ma deuxième question. J'ai suivi l'invité il n'y a pas longtemps sur le TL50. Il a dit être au gré de la volonté de son évêque. C'est-à-dire, si celui-ci lui disait c'est fini, vous retirez, il va se retirer de cette charge-là.
Oui.
Alors, se retirant de cette charge-là, comment sera-t-il sûr que ces 12 points seront respectés après qu'il ne sera plus là? Parce qu'il en est l'initiateur. Voilà ma deuxième question. Tout en étant sûr que ma première a été comprise.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Louemboué. Monsieur le recteur Chibaka, vous la parole.
Oui, bon, d'abord, pour ce qui est de l'assainissement, c'est un travail qui est déjà en cours. La ministre des Sursis, la professeure Marie-Thérèse Sombo, a demandé à tous les présidents des conférences, des chefs d'établissement, il y en a 26 au Congo, de lui faire le point sur les universités ou les instituts anarchiques. Vous pouvez avoir une université autorisée de fonctionner, je ne sais pas moi, au Kasaï, et qui se retrouve au Maniema, ou je ne sais pas quoi. Ou des universités qui n'ont aucune autorisation, juste...
Il y en a beaucoup comme ça.
Oui, oui, ça y est, vous trouvez juste... ils ont déposé une demande, je ne sais pas moi, d'ouverture, alors qu'il y a un moratoire. Donc, ils fonctionnent avec le sceau de la réception.
L'accusé de réception,
reçu tel jour, donc ils commencent à brandir cela. Donc, il y a beaucoup d'établissements comme ça qui ne remplissent aucune condition. Hein, peut-être pour détendre un peu les choses, je me souviens, une fois, l'un de mes collaborateurs, un professeur, était dans un village dans le cadre d'un projet rural. Alors, il a vu trois messieurs dans une salle. Il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, non, c'est un auditoire, en fait. Les deux messieurs, dans un petit village là perdu en Andangika, ils étaient en fait, ils étaient en train de faire des études de polytechnique. Ils ont sous un arbre, ça va, avec un monsieur qui s'était déplacé pour former des ingénieurs. Et après, vous apprendrez que dans tel village, monsieur est ingénieur.
Ingénieur.
Donc, il y a quand même ce désordre-là. Disons, l'inventaire a déjà été fait dans plusieurs. Je pense que là, on est sur ce point-là. Donc, il faut assainir ce milieu-là. Pourquoi? Parce que ça fait parfois, vous êtes dans une université qui se bat pour fonctionner normalement. Vous trouvez quelqu'un qui a échoué dans une promotion. Et vous allez à la collation des grades dans une université ou un institut voisin, vous découvrez que monsieur, il est là, il vient d'avoir son diplôme. Mais vous dites, mais chez moi, il avait échoué.
Il avait échoué, mais comment?
Oui, oui. Donc, tout ça, il y a quand même un travail d'assainissement qu'il faut faire et qui demande beaucoup de courage. Pourquoi? Parce que parfois, derrière certains établissements, il peut y avoir des acteurs qu'il faut avoir le courage d'affronter pour l'intérêt de là. Alors, notre ami...
Un instant, monsieur le recteur, on va accueillir deux autres auditeurs. Blaise Saïdi de Kisangani, bonjour. Blaise, vous êtes à Kisangani, et Mina Mwanda, vous êtes à Kalemi. Blaise, bonjour. Merci d'ouvrir vos micros, Blaise et Mina.
Allô? Oui, je suis là.
Bien.
Allô?
Oui, oui, on vous écoute, Blaise.
Oui, merci beaucoup. Je félicite d'abord bonjour et bonjour également à l'invité, y compris les auditeurs, auditrices de la Radio Capi. Je félicite M. l'abbé Apollinaire, puisque à chaque fois, il est en train de vendre vraiment l'image de l'université de Mbujimayi. Ça, c'est quelque chose à...
Voilà, je pense qu'il y a un souci au niveau
si
de...
Si et seulement si.
Il est là.
Oui, je disais que non, cette université... a des potentiels, c'est seulement si elle respecte le Vade Mecum. C'est-à-dire quoi? L'amélioration des qualités de l'enseignement, la recherche, la gouvernance, les infrastructures. Puisque pour le moment, il n'y a pas assez de soucis à ce qui concerne les infrastructures. Mais toutefois, pour économiser le temps, je dois aller tout juste à deux préoccupations. La première, quels sont les principaux défis qui empêchent l'université de Mbujimayi de devenir une université de référence dans notre pays. La deuxième préoccupation, les recommandations de Vade Mecum sont-elles suffisamment appliquées dans cette université? Je me limite à ces deux préoccupations chez aujourd'hui.
Bien, merci. Emina Mwanda depuis Kalemi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jodi. Mes salutations aussi à l'invité ainsi qu'à votre équipe qui nous accompagne et aux milliers d'auditeurs qui nous suivent à ce net moment. Je commence d'abord par vous féliciter, vous, pour les différents sujets que vous choisissez, vraiment qui touchent. Parce que quand vous suivez l'invité, il est en train de nous donner certaines révélations qui étaient cachées. Et je l'ai suivi. Il a dit que vous voyez un étudiant qui a échoué dans votre université, mais après X temps, il a déjà son diplôme. Alors, à son niveau, qu'est-ce qu'il peut proposer pour de tels cas, parce que ce sont des cas les plus légers, et à un certain moment, il se trouve dans le monde professionnel avec ce diplôme-là, qui normalement ne sont pas frauduleux, mais il avait seulement échoué chez vous, mais là il a fini l'exercice. Que doit faire réellement l'État pour freiner cette mauvaise pratique? Alors, ma deuxième préoccupation, on va te donner quelques recommandations et de savoir, et que, selon ces cinq piliers-là qui s'est fixé, est-ce que ces piliers-là respectent réellement la modernité et ils vont s'adapter à des réalités actuelles et ensuite à l'évolution de l'intelligence artificielle? Alors, parce que je sais très bien que nos universités, l'enseignement universitaire souffre actuellement de l'adaptation des nouveaux systèmes LM2. Vous savez que pour que les étudiants sortent, pour que le monde universitaire s'adapte à ces systèmes-là, il fallait d'abord qu'on commence par préparer certaines choses. Mais on a brisqué ça, mais actuellement, les gens sont contraints de s'adapter et suite à telle ou telle autre chose. Il a évoqué la question de mains cachées ou soit de mentors. Parce que si un ministre a une université X et il va toujours prévaloir que cette université-là doit continuer à exister, même si elle ne respecte pas certaines conditions, cette université-là doit continuer et doit continuer aussi à donner des faux diplômes, soit des faux intellectuels. Et donc, moi, je voulais que l'invité nous donne des propositions concrètes pour vraiment sauver les études universitaires.
Merci. Merci beaucoup, Éminent Mwanda, depuis la ville de Kalemi. On va prendre un autre auditeur. Non, pas du tout. Les autres peuvent nous appeler. Vous pouvez intervenir dans cette émission de la vie au quotidien. Écrivez-nous à service@radiokapi.net. Monsieur le recteur, vous avez la parole.
Oui, ça va. Alors, on revient à Gentil
Bassokwamba.
Bassokwamba, donc, il a posé plusieurs questions, filières, mécanismes de suivi, évaluation, les ressources financières, tout ça. Bon, je voudrais d'abord lui dire que ce que j'ai fait, ce sont des propositions. Voilà, ce sont des propositions.
Oui.
Et je n'ai pas tout le pouvoir de les appliquer. Ce sont des propositions soumises à une communauté universitaire pour qu'ensemble on discute. Ce qui relève de notre compétence, qu'on les fasse ensemble. Ce qui relève de la compétence des autorités, qu'on sollicite les autorisations et les accompagnements nécessaires. Alors, si au mois de mai, du 26 au 29 mai en Mbujimayi, s'est tenu le premier congrès d'études congolaises qui s'est clôturé par ce qu'on appelle l'appel de Mbujimayi. L'appel de Mbujimayi, justement, l'une des propositions de l'appel de Mbujimayi, c'est repenser la formation, les kirukula, les filières de formation que nous sommes en train de proposer, que nous offrons aujourd'hui dans notre... Compte tenu des nouveaux défis, est-ce qu'il ne faut pas repenser les choses? Je donne par exemple chez nous dans notre université, on a le département de sociologie. Aujourd'hui, c'est un département où il y a disons chez nous, on a dû le fermer parce qu'on avait seulement cinq étudiants. Donc on a dû les orienter ailleurs. C'était d'ailleurs un département où ils payaient la moitié. Donc on a dû les orienter.
Pourquoi il n'y a pas d'intérêt pour la sociologie?
Mais maintenant pas seulement pour la sociologie, en principe pour certaines branches de sciences sociales, d'histoire. Donc il est possible qu'après les grandes AUL et les autres, on n'ait pas d'historiens sérieux au Congo. Donc on va passer, il y a des domaines comme la philosophie, comme la philologie, donc il y a plusieurs types de sciences qui ne semblent pas intéressés, mais vous avez tout le monde ou bien on fait
droit,
la médecine,
économie,
on fait le droit, ou l'économie,
là-bas c'est toujours plein.
Oui, c'est toujours plein. Et donc là, c'est à nous de voir comment proposer ces sciences autrement. Est-ce qu'il faut continuer à les proposer comme on les proposait avant? Est-ce qu'il ne faut pas penser à des formules, des filières mixtes où vous pouvez avoir droit et pour sauver ces disciplines-là qui sont très importantes pour la formation de... Alors donc il y a un effort à faire pour repenser. Il y a les nouveaux défis avec la nouvelle révolution scientifique dans laquelle nous sommes en train. Comment est-ce que nous préparons à ces transformations? Est-ce qu'il ne faut pas adapter? Alors il y a tous les besoins de la société.
Aujourd'hui, avec la découverte du cuivre à Katende,
Nous avons géologie, nous avons mines et tout ça. Il faut être dit. Alors, il y a donc obligation de repenser les formations que nous offrons, non pas en fonction des filières classiques, ailleurs d'où nous est venue l'université, d'où nous sont venues toutes ces facultés, il y a beaucoup de changements. Donc je connais des jeunes gens dans des universités en Europe, quand ils finissent, il est à la fois, je ne sais pas moi, licencié ou maître en droit et en économie à la fois. Donc, ils essayent d'adapter la formation qu'ils offrent en fonction de leurs besoins et des défis du moment. Oui. Et donc, il faut un système universitaire dynamique qui s'adapte. Donc, les sciences sociales sont très importantes lorsque elles n'ont pas de clients, si je peux ainsi dire. C'est à nous de dire, c'est important, comment nous allons les offrir? La philosophie est importante, comment nous allons l'offrir aujourd'hui dans nos sociétés où des gens ne veulent pas faire ces études-là? Donc, il y a moyen d'étudier, de penser tout cela.
Mais tout dépend aussi des opportunités qu'il y a sur les terrains. Bon,
oui, oui.
Les gens se disent, bon, j'ai fait la philosophie. Et
oui,
après,
oui.
Quand je serai sur le marché de l'emploi, oui. Qu'est-ce que je fais?
C'est ça. Non, mais maintenant, nous qui avons fait ça, on peut vous dire que sur le marché de l'emploi, on peut être utile. Donc, c'est à nous de penser le système. Alors, mécanisme de suivi et évaluation, bon, ces mécanismes, ça existe. Les ressources financières, à nous de les inventer. Peut-être un petit mot pour dire que l'université congolaise est l'une des universités où on paye le moins au monde. Un étudiant congolais paye plus ou moins $285 par an pour étudier, ou 385 dans médecine et autres. Les ressources financières, il faut les penser. Si ce n'est pas l'étudiant qui les donne, il va falloir que l'État les mette, qu'on trouve des ressources pour financer cela. Parce que une université qui n'a pas de ressources est une université qui va donner, dispenser une formation, si je peux dire, un peu au rabais. Donc, une bonne formation, ça coûte cher. Et il faut trouver des moyens pour cela.
Est-ce que les universités peuvent développer d'autres sources de financement, par exemple, d'autofinancement?
Oui, des sources d'autofinancement pour les universités, c'est vendre leur expertise. Ça va, c'est. Hein. Mais alors, pour vendre leurs expertises, il faut qu'elles aient, qu'elles développent donc les dimensions pratiques, qu'elles développent des formations qui répondent aux besoins réels de la communauté. Donc là, tout ça c'est important, il faut donc le penser. Alors je remercie Blaise Saïdi qui parle de bonbons au sujet de l'image de notre université. Oui, le vademécum existe, nous efforçons de le faire respecter. Et les réflexions que nous faisons pour l'autre préoccupation qu'il a exprimée, c'est prendre en charge, à partir de ma petite expérience, les défis qui se présentent aujourd'hui à notre université. Les 12 points que j'ai évoqués, c'est autant de défis à partir de mon point de vue. Quelqu'un d'autre peut percevoir d'autres et les ajouter. Alors, Jeannot, dans le Grand Katanga, je suis pour la démassification, je suis pour l'élitisation et la diversification de la formation. Donc on doit le faire. Vous voyez, par exemple, l'un des problèmes que nous avons, à la rentrée, nous organisons le concours.
Concours d'admission.
D'admission.
Oui.
Ma petite expérience, c'est que généralement, ces concours, vous avez 17% d'étudiants qui réussissent. On est autour de 17-20% qui réussissent. Ce sont ceux-là qui sont admissibles, en fait. Mais maintenant, le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que nous dépendons des étudiants pour faire fonctionner ces établissements-là. C'est leur argent qu'ils nous donnent qui fait fonctionner le fonctionnement ordinaire.
Donc vous êtes obligé de prendre même ceux-là
donc
qui ont...
Donc on va prendre même ceux-là qui
n'ont pas...
Parce que, justement, les résultats des épreuves d'admission et les examens de la première session, c'est pratiquement, vous avez pratiquement le même pourcentage. Donc entre 17-20% des réussites. Et donc, si on était rigoureux, c'est-à-dire si l'université avait des moyens, il y a des gens qui ne seraient pas en fait à l'université, qui seraient ailleurs.
Tout à fait.
Donc il y a des gens qui sont admis, ils sont admis à titre des bailleurs en fait. Ce sont des bailleurs, on a besoin d'eux parce que ce sont des bailleurs, sinon le système ne fonctionne pas. Mais entre-temps, donc on massifie l'université et ça a un impact sur la qualité de la
qualité.
Formation.
On va accueillir Médard Kabalo avant de répondre aux autres questions. Oui. Médard Kabalo, vous êtes vous nous appelez depuis le Tanganyika et Adjoku Robert est à Ituri. Médard Kabalo, bonjour. Médard, bonjour.
Bonjour papa, bonjour.
Oui, on vous écoute.
Oui, c'est Médard Jacabalo.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux 12 propositions pour faire de l'université officielle des Mujumai une véritable université?
Oui.
Bon, je constate que vous n'avez rien à dire. On passe à Monsieur Adjoku Robert, depuis l'Ituri. Bonjour.
Encore une fois, merci Radio Capi, Radio de la paix, de l'unité, de cohésion nationale et aussi de développement. Hommage à vous, hommage à l'invité, fantastique. Toujours les choix judicieux des intervenants. Estimés professeurs, soyez bénis. Hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Papa Fachi Oumela. Quand on voit les images de l'université de Mbujimayi à la télévision, aïe aïe aïe, ça fait extrêmement plaisir. Si je peux me permettre de proposer que les institutions d'enseignement supérieur et universitaire soient financées en termes de construction dans tous les territoires de la RDC, parce que chez nous à Arou, ce sont les églises, et la population à l'époque, et aussi Mboussa Nyamwisi, il y a plein de rébellions que je salue très chaleureusement, qui a construit l'Institut supérieur des études agronomiques et vétérinaires. Donc, par rapport à l'explosion démographique terrible que connaît notre pays, en tout cas, nous devons avoir la vision de la projection d'avenir, comme le professeur venait de nous le révéler. Maintenant, concrètement, comme il y a insuffisance de nombre de professeurs d'université, est-ce que l'invité peut nous aider à proposer les universités ou les moyens où on peut facilement former les docteurs en thèse pour que le nombre de professeurs d'université soit augmenté dans toutes nos institutions? C'est aussi l'occasion de dire à la jeunesse de s'intéresser à la recherche et de ne pas refuser de faire l'assistanat et qu'ils ne commettent pas les erreurs que nous autres nous avons commises. À l'époque, on m'a demandé de faire l'assistanat, j'ai refusé parce que j'étais intellectuellement fatigué. Donc, nous encourageons nos jeunes vraiment à faire les institutions, à poursuivre, je veux dire, les études doctorales.
Monsieur Adjoku.
Oui, vraiment, merci beaucoup. Nous sommes très contents. Si l'invité peut transmettre toutes ses réflexions aux autorités, à commencer par les chefs de l'État, au gouvernement et à toutes les autorités pour qu'on puisse réaliser sa vision.
Merci, Monsieur Robert Adjoku. Mais qu'est-ce qui vous avait fatigué autant et vous avez abandonné?
Au lieu de faire 5 ans, j'ai fait 10 ans à l'université. Je voulais faire la médecine, j'ai commencé la biologie chimie.
Oui.
Je suis allé à Kisangani, on m'a inscrit à Sciences de l'éducation. J'ai réintroduit le dossier en médecine, on m'a inscrit à Sciences politiques et éducatives. C'est là que j'ai terminé finalement. Et à la fin, on me demande de faire l'assistanat parce que j'avais rempli les critères. Nous avons étudié avec le professeur Maindo Ngumbi Kitete, Vital Boudou.
D'accord.
Et les autres.
Merci beaucoup. Tout cela vous a fatigué.
Le professeur Bongeli nous a beaucoup encouragé, mais vraiment j'ai commis cette bêtise, je suis en train de regretter. Maintenant, nous devons pousser nos jeunes qui ont des talents, qui sont courageux à poursuivre, parce que le professeur nous disait que chacun fait sa propre université. À l'université, on donne les méthodes de travail, donc chacun doit faire un effort.
Merci beaucoup,
Monsieur Adjoku. Pour se cultiver davantage.
Merci, Monsieur Adjoku. Monsieur la directeur.
Ça va, bon, on revient à Jeannot et puis on va aborder tout le monde.
Oui.
Jeannot a demandé s'il y a surnombre, qu'est-ce qu'on fait.
Oui.
Donc il faut d'autres filières de formation, tout simplement. Qu'on soit rigoureux dans la sélection et que si on offre d'autres filières de formation professionnelle ou des instituts supérieurs orientés à répondre à des besoins réels de la communauté, tant mieux. Ça ne sert à rien de produire chaque année 150 juristes qui vont au chômage, qui vont aller vendre sur la route
de crédits,
téléphone et tout ça. Donc là, il faut y penser. Alors, il a posé une question un peu plus personnelle. Non, moi je suis un prêtre, donc je suis un prêtre, donc ce travail, disons, ce mandat, je l'ai reçu moyennant l'autorisation de mon évêque. S'il me dit, c'est fini, c'est fini. Mais c'est aussi un mandat. D'ailleurs, c'est 5 ans, donc j'ai déjà épuisé mon mandat. Mmh. Donc, je suis hors mandat. Alors maintenant, s'il me dit, qu'est-ce que je fais
pour
me rassurer que les propositions, ce ne sont que des propositions.
Oui.
Il n'y a que Dieu qui peut tout faire. Là, ce sont des propositions. Des propositions soumises au débat, soumises à l'échange, et c'est tout. Donc, je ne dis pas que ce que je dis, c'est ça qui doit être fait. Ce ne sont que des propositions à partir de mon expérience de travail. Alors, que faire par rapport à ceux qui trichent? Écoutez, j'ai géré un cas comme ça où des étudiants, ils ont échoué chez nous en première année. Et puis...
Ils vont ailleurs et
non, et ceux-là ne sont même pas allés ailleurs.
Ok.
Ils sont venus prendre une inscription spéciale en deuxième chez nous. Et ils venaient d'ailleurs avec un dossier académique bien fait. Alors c'est en donnant cours, une prof, d'ailleurs visiteuse, qui était présidente de leur jury, et donc connaissait, dit, tiens, mais vous aviez échoué l'année passée. Comment vous êtes en promotion supérieure? Et quand on vérifie, en fait, ils sont allés ailleurs, ils se sont fait fabriquer des pièces de la première année, comme quoi ils avaient réussi, et ils ont sollicité chez nous une inscription spéciale.
Avec des faux documents.
Avec des faux documents.
Okay.
Alors d'où l'importance de ce qui est proposé au niveau du ministère, un numéro matricule unique national pour chaque étudiant. Hein, donc, il y a tout ça. Donc, et des cas comme ça. Mais vous en avez aussi qui, il a échoué en première ici, il va ailleurs, il passe en deuxième, il est admis en deuxième, et on lui fabrique un dossier comme quoi il a fait la première là-bas. Hein, donc, c'est contre ça qu'il faut lutter. Hein, d'où, alors, il faut des universités sérieuses, où il y a de la discipline, où il y a une administration rigoureuse, et là, ça peut nous aider. Alors, il y a Médard, je pense, on ne s'est pas entendu.
Oui.
Alors, Robert vient de parler d'insuffisance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, en quelques années, tout simplement. Je peux donner ma propre expérience. Donc, moi, j'ai fait mon doctorat en 2 ans et demi. Et moi, je ne comprends pas des gens qui restent 10 ans, 20 ans à préparer une thèse doctorat. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut placer les gens dans des conditions pour cela.
Et pourquoi ils passent beaucoup d'années comme ça sans évoluer?
Bon, il y en a qui peuvent passer des années sans évoluer parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y en a qui passent des années parce que pendant qu'il est assistant ou je ne sais pas qui, il est aussi, je ne sais pas moi, député, il est aussi
conseiller dans un cabinet, donc, tout ça. Donc, il n'a plus le temps.
Oui, il n'a pas le temps. Mm. Et donc, il y a plusieurs raisons qui font. Mais on peut, disons, moi, je suis convaincu que le défi en ce qui concerne le personnel académique, le Congo peut le relever en 5 ans. Dire, écoutez, nous allons former des gens en 5 ans dans tel domaine. Les gens que, par exemple, notre université envoie des gens aux études dans certaines universités européennes, ils n'y vont pas pour l'éternité là-bas. Mmh. Là-bas, c'est connu, c'est-à-dire, vous avez 3 ans pour ceci. Si au bout de 3 ans, ce n'est pas fait, pour votre thèse, par exemple, l'université où j'ai étudié, c'est 3 ans au maximum. Donc, si ce n'est pas fait, et qu'il n'y a pas de raison, l'inscription est annulée.
Donc vous devez retourner
ou reprendre la recherche dans un autre domaine. Vous avez démontré que vous êtes incapable de le faire. Et donc il faut toute cette rigueur là. Il faut des calendriers académiques.
Si, on a des assistants qui font 10 ans. Oui. Il est toujours assistant,
ou
chef de travaux,
ou je ne sais pas quoi.
Oui.
Et donc il le faut. Mais il faut cette discipline là dans la gestion du temps et que des gens. Parce que, écoutez, avec la thèse doctorat, on ne change pas le monde. Ça va, c'est un exercice académique et on peut le faire. Donc, on peut dire 2 ans, 3 ans, vous faites ceci et vous terminez. Donc, on ne va pas s'éterniser sur de travaux, des études. Alors, vous avez quelqu'un qui défend sa thèse à 50 ans, à 60 ans, il est déjà fatigué.
Déjà fatigué, bien sûr.
Donc, ou même à 70 ans, il y en a au Congo. Donc, il est déjà fatigué, 70 ans, 75 ans.
C'est ainsi que Robert encourage les jeunes à aller mener des recherches, à devenir des docteurs à thèse.
Oui, oui, il le faut. Mais alors, un peu plus tôt, par exemple, en Mbujimayi, ce que nous venons de faire maintenant, c'est constituer une banque de talents. On a sélectionné, ça, on s'est dit, nos meilleurs étudiants 2024, 2025 et 2026 constituent une banque. On a dit 10 de nos meilleurs étudiants dans toutes les facultés. Ça va? Donc, chaque faculté nous fournit 10 de nos meilleurs sur ces années. Alors, nous les mettons au travail et nous cherchons des opportunités pour qu'ils deviennent des professeurs. Alors, vous avez donc des jeunes gens de 25 ans, 26 ans. Si vous les mettez au travail avec cette jeunesse-là, autour des 30 ans, vous avez des professeurs d'université.
Oui. Alors, et vous avez même ouvert une école de langue vivante pour qu'ils apprennent l'anglais.
Oui, pour qu'ils apprennent l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le français aussi. Parce que c'est l'un des problèmes. C'est-à-dire, beaucoup de nos étudiants
ne s'expriment pas bien.
Ils écrivent mal, ils lisent mal, et donc ils réfléchissent mal. Donc même le Tchiluba, le Lingala, le Swahili, le Kikongo, c'est des langues dispensées dans notre école. Donc maîtriser les langues, ça fait partie de ces cursus-là de formation des professeurs. Donc on constitue donc une banque de nos meilleurs. Dans notre université, il y a l'une de nos meilleures étudiantes, elle vient de terminer une première année à l'université en Chine. Elle prépare son doctorat en informatique. Ça a très bien marché. Elle a validé tous les cours.
Elle avait obtenu une bourse.
La bourse lui est donnée par notre université. C'est notre université qui la prend en charge.
Okay.
Et là, elle vient d'être admise dans une université à Hongrie où elle poursuit sa formation pour le doctorat. Donc d'ici 3-4 ans, parce que c'est une étudiante très brillante, on le fait. Donc c'est comme ça que nous on fait avec nos meilleurs étudiants.
Donc vous aurez des docteurs à thèse à 30 ans déjà.
Oui. À 30 ans, donc il y a un par exemple que nous avons envoyé en Allemagne. Celui-là, il y a une fondation ici qui est ici à Kinshasa, une fondation allemande, Hans Seidel, qui l'a prise en charge. Il est tellement brillant, tellement apprécié dans l'université où il travaille que cette université a ouvert ses portes à notre université pour qu'on envoie d'autres étudiants en formation. D'ailleurs, la fondation Hans Seidel, qu'il a reçue quand je suis allé en Allemagne, m'a dit, voici le type d'étudiants africains dont on a besoin.
Okay.
Et ces talents-là, nous les avons. Il ne faut pas qu'on les perde. Donc, notre université a cette politique-là, identifier les talents, constituer une banque des talents et aider ces jeunes gens-là à aller aux études. C'est pour notre nation. C'est comme ça que nous avons
un fonds de bourse. Et c'est l'université qui supporte même la formation.
Là où on ne donne pas de bourse, nous-mêmes, nous nous efforçons de prendre en charge. Mais nous avons des bourses en Espagne, nous avons des bourses en Italie, en France, en Allemagne. Ailleurs, c'est nous qui envoyons. Nous avons constitué un fonds, là, la bourse Dr Étienne Tshisekedi, où l'université met un peu d'argent. Nous et des personnes de bonne volonté mettent de l'argent pour soutenir nos doctorants. Donc, on n'a pas assez de moyens, mais on y va. C'est nous qui gagnons. Par exemple, là, si chaque année nous importons 240 professeurs, et si nous avions 240 professeurs propres, ça nous ferait des économies dans le fonctionnement de notre université. Et l'argent qu'on dépense dans les billets d'avion, dans les logements,
les professeurs visiteurs,
mais c'est le prix que nous payons pour la qualité, parce qu'il ne faut pas laisser la formation des jeunes, de nos étudiants, entre les mains des volontaires. Donc il faut qu'ils soient formés par des spécialistes.
Bien, on va accueillir Pierre Mujanaï depuis Lubumbashi. Nous parlons des 12 propositions pour faire de l'université officielle de Mbujimayi une véritable université. Notre invité, c'est M. l'abbé Chibaka Tshikongo, recteur de l'université officielle de Mbujimayi. Pierre Mujanaï, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tous.
Oui, quelle est votre préoccupation, Pierre?
Bon, nous saluons d'abord la construction de nouveaux bâtiments de l'université officielle de Mbujimayi. C'est une grande avancée pour le Kassai oriental. Maintenant, nous voulons demander à M. l'abbé, avec son équipe, la sélection de ceux qui seront admis comme des lauréats ou soit ceux qui devraient aller à l'étranger pour poursuivre leurs études, que ça ne se fasse pas selon certaines intentions. On doit les faire selon la méritocratie. Parce que des fois, avec de telles initiatives, il y aura maintenant une mainmise qui va commencer à travailler là-dessus et on commence à sélectionner les gens selon les relations. Alors que les meilleurs étudiants restent ceux qui n'ont pas le temps de faire quelque chose par manque de moyens dans des familles. Là, j'ai quelques questions à poser à M. Labbé, recteur.
Lesquelles?
La première question. Les 12 réformes annoncées par le recteur seront-elles traduites en un plan d'action avec un calendrier précis et des indicateurs de résultats afin que la population puisse en suivre la mise en œuvre? Il peut nous éclaircir là-dessus. Et la deuxième question, comment l'université compte-t-elle renforcer les partenariats avec les entreprises et les institutions publiques afin que les étudiants bénéficient davantage des stages et d'opportunités d'insertion professionnelle après leurs études? Et la dernière question, l'université officielle de Mbujima dispose désormais d'infrastructures modernes. Quel mécanisme sera mis en place pour assurer leur entretien afin qu'elle ne se dégrade pas dans quelques années? Ce sont là les questions que je pose à M. Labbé pour que je puisse avoir d'informations.
Bien, merci M. Pierre Amoujanaï depuis Lubumbashi. M. Labbé, recteur.
Bon, alors les critères de sélection pour éviter qu'il y ait du favoritisme, non, on y veille. En fait, nous avons demandé nos meilleurs étudiants 2024, 2025, 2026. Les palmarès sont là, les palmarès parlent et disent tel étudiant avait tel pourcentage.
Il n'y a pas moyen de tricher.
Il n'y a pas moyen de tricher et là où, disons, les étudiants de mon université m'écrivent, disons, ils ont tous mon WhatsApp, ils m'envoient des messages.
Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Non, justement, c'est ce qu'ils disent. Il y en a qui ont dit, moi, on ne m'a pas sélectionné, donc ils savent faire le recours. Les portes sont là, sont ouvertes pour dire, écoutez, moi, je mérite, on ne m'a pas pris. Et donc, notre problème, c'est constituer la banque des meilleurs talents, oui. Pour que d'ici 5 ans, on est des grands chercheurs, on est des grands professeurs. Alors, les réformes, non, ce ne sont pas 12 réformes, ce sont des propositions. Parce que moi, j'ai pas le pouvoir de décision. Donc, il y a des choses qui ne relèvent pas de ma compétence. Donc, ce sont des propositions qui sont faites. Nous les discutons tel qu'on discute là.
Est-ce que le ministère des tutelles est déjà saisi par rapport à ces propositions?
C'est un livre, c'est une publication.
D'accord.
Ça fait partie d'un livre. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est soumettre ça au débat. Et puis, quand le débat au sein de la communauté aura abouti, on peut solliciter pour dire, Excellence, on a besoin de ceci. Mais il y a des choses qu'on a déjà soumises, des demandes qui ont été déjà faites, notamment pour la création des écoles spécifiques. Pour ce qui est de l'entretien, on va devoir terminer, j'imagine.
Oui.
Non, notre université est entretenue par une entreprise extérieure. Donc l'entretien, la maintenance est externalisée et les gens peuvent y aller. Je ne dis pas parce que c'est mon université, je crois que c'est l'université la plus propre du Congo.
Bien, monsieur l'abbé recteur Tshibaka, merci beaucoup pour ces 12 propositions pour faire de l'université de Mbujimayi une véritable université. Je rappelle qu'il est recteur de l'université officielle de Mbujimayi. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.